Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé les poux.
Les chambres à gaz, toujours un détail de l'histoire de la guerre.
Il y a quand même aujourd'hui en France deux fois plus de juifs qu'il n'y en avait en 1939. Donc c'est une communauté génocidée qui a multiplié par deux sa population.
Avec la mort de Robert Forisson, ce sont les origines du négationnisme qui disparaissent. L'ancien professeur de lettres a connu la notoriété dans les années 70 en publiant un certain nombre d'essais qui contestaient la réalité historique du massacre des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, préférant la terminologie de révisionnisme historique pour légitimer son travail de remise en cause d'une vérité pourtant largement attestée par les historiens et les scientifiques. Robert Forisson a mis en place ce que l'on pourrait qualifier de premier régime moderne de désinformation à l'échelle mondiale. Bonjour Valérie Gounet.
Bonjour.
Vous êtes historienne, directrice adjointe de Conspiracy Watch et autrice d'une histoire du négationnisme publiée au Seuil. Alors est-ce qu'on peut dire que le négationnisme peut être vu comme la première grande entreprise de falsification de l'information de l'histoire moderne?
Oui, pourquoi pas, on peut le dire, puisque dès les premières années de l'émergence de cette propagande, c'est vrai que le négationnisme dans des cercles restreints s'est propagé comme une fausse nouvelle. Internet n'existait pas et c'est vrai qu'ils ont une façon de se médiatiser et ils ont une stratégie aussi médiatique justement qui rend public leurs thèses et qui les rend audibles.
Ces thèses négationnistes avaient très peu de publicité. Il y avait Paul Racinier, Maurice Bardèche qui étaient les fondateurs mais qui étaient assez inaudibles. Forisson va donner justement une tribune plus large à ces idées qui sont pour vraiment réservées à un très très petit cercle.
Oui, il faut aussi mentionner un homme qui s'appelle François Duprat, hein, qui a été idéologue du Front National et qui a été aussi très très important hein, dans la structuration du discours négationniste. Mais comme vous le dites, il restait confiné au cercle restreint de l'extrême droite française, en gros. Parce que pour Paul Racinier, c'est pas exactement le cas, mais c'est vrai.
Oui, puisqu'il était Paul Racinier, il était de gauche avant la Seconde Guerre mondiale.
Exactement, et c'est vrai, par exemple, une partie de la fédération anarchiste l'avait soutenu. Après, c'est vrai que Robert Forisson est arrivé sur ce terrain. C'est un universitaire, maître de conférences en littérature, hein, ce qui n'est pas rien, spécialiste du faux. Et c'est vrai que cet homme voulait se faire connaître. Dans les années précédant son affaire, hein, l'affaire éponyme, hein, il a essayé de percer dans les médias, notamment pour ses postulats littéraires qui allaient à contre-courant déjà à cette époque. Après, c'est vrai que l'affaire Forisson, hein, qui peut peut-être débuter fin décembre 78, hein, quand Le Monde a décidé, pour certaines raisons, de publier une partie des thèses, entre guillemets, de Robert Forisson. C'est vrai que là, à partir de là, on a vu que cette propagande hein, antisémite pouvait résister à plein de choses.
Comment expliquer qu'il rencontre un succès là où ses prédécesseurs, finalement, n'arrivaient pas à sortir justement de ces micro-cercles extrême droite.
Il est habile, Forisson, et par rapport à ses soutiens. Vous savez, quand Le Monde a voulu publier aujourd'hui, évidemment, que Ariane Chemin a d'ailleurs fait un papier là-dessus pour tenter d'expliquer, hein. Pour nous, c'est vrai que ça semble assez aberrant, mais quand on lit le chapeau du Monde, hein, il pensait qu'en publiant une partie des thèses de Forisson sur une demi-page et en publiant une sorte de réponse qui n'en est pas une de Georges Wellers, par exemple, puis le lendemain d'autres historiens, que ces thèses allaient s'autodétruire d'elles-mêmes. Si vous voulez, il y avait une génération qui émergeait, il se disait c'est tellement énorme qu'en les publiant, on va parvenir à ça. Ce n'a pas été le cas. Parce que aussi, Forisson a transformé un discours, hein, est arrivé avec des habits scientifiques, soi-disant, hein, d'universitaire, ce qui était le cas, de maître de conférence, et aussi avec un statut d'apolitique.
Serge Klarsfeld déclarait à propos de la mort de Forisson, les négationnistes ont rendu un grand service involontairement, ils ont fait comprendre au monde juif et au monde scientifique qu'il fallait un grand travail universitaire à travers le monde occidental pour pouvoir écrire chaque page de la Shoah d'une façon très précise. C'est une sorte de contre-feu. Cette position extrémiste, elle a été nécessaire finalement à l'établissement d'une vérité scientifique indiscutable.
Sans Forisson, la recherche historique aurait avancé aussi, il faut bien le souligner. Par contre, ce qui est pour moi une certitude, c'est que là, les témoins ont senti comme une urgence de venir parler. Et surtout à ces jeunes générations. Moi, je suis intervenue plusieurs fois avec eux et avec elles. Et c'est vrai qu'ils nous rendent compte de ce fait. C'est quand ils entendaient ces paroles au grand jour. C'est la première fois qu'on entendait Forisson et d'autres dire qu'ils n'avaient jamais été exterminés. Vous imaginez le choc inouï, le dégoût. Comme il disait, on les assassinait une seconde fois. Et cela, c'est vrai qu'au point de vue des témoins, des témoignages, ça a été quelque chose d'énorme. Ils étaient prêts, certainement, à ce moment-là, à parler.
Internet est devenu une chambre d'écho à ces théories de falsification de la vérité scientifique, de la vérité historique. On retrouve aujourd'hui une sorte de renouveau, finalement, de la transmission de ces distorsions de la réalité. Comment est-ce que vous l'expliquez, Valérie Gounet ?
Comment je l'explique? Par évidemment ce biais qui est énorme. Hein. Vous savez, Conspiracy Watch, on est toute la journée sur ces sites, hein, et je le regardais évidemment encore avec plus d'attention par rapport à Forisson ce matin. Par exemple, le site d'Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, hein, qui rend un hommage au professeur Forisson, qui a même fait publier un portrait de Robert Forisson, papier dessiné, quoi. Comment je l'explique? Ben, c'est très clair. Il y a évidemment un aspect technique, hein, qui est là, un aspect aussi qui outrepasse la loi. En France, il y a une loi, la loi Guesso, hein, qui a été votée en été. À l'été 90, et avec Internet, comment on peut faire? C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Et par évidemment ces milliers d'internautes qui viennent sur ces sites, qu'ils pensent pour certains d'informations et d'autres de propagande, et qui les consultent sans aucun problème. Après, il faut bien voir que, en ce qui concerne le négationnisme, il a passé aussi les frontières d'Internet, mais aussi des frontières physiques. À partir des années 2000, il y a eu une mue du discours, et il s'est internationalisé. Et Internet aide beaucoup aussi par rapport à ça. Hein. Rappelez-vous ces images d'Iran, hein, de Forisson et d'autres, hein, de cette conférence internationale.
Avec Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien de l'époque.
Évidemment, oui. Qui remet d'ailleurs un prix à Forisson en 2012. Ces films qui sont diffusés, hein, il y a eu des films où Forisson était présent, ou d'autres, il y a même eu un film hagiographique, hein, de Paul-Éric Blanru. Alors, Internet est un support aussi, est un vecteur évidemment incontournable par rapport à ces propagandes complotistes.
On dit aujourd'hui, et on en parle souvent dans les idées claires, qu'il est impossible de convaincre un complotiste de l'inverse, que toute tentative de convaincre un complotiste qu'il est tombé dans une théorie du complot ne fait que renforcer sa pensée complotiste. Vous pensez qu'on est aujourd'hui dans une sorte d'impasse de la micro-structuration de ces micro-communautés fermées sur elles-mêmes, qui s'auto-entretiennent, et qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit à partir du moment où on est face à une vérité scientifique, historique aussi établie que celle de la Shoah, aussi documentée que celle de la Shoah?
C'est pas si simple, selon moi. Il y a différents profils de complotistes, hein. C'est évident, hein, quand vous voyez, ça dépend du parcours, hein, du parcours intellectuel, du parcours idéologique. Il est évident pour moi, on parlait tout à l'heure d'Alain Soral ou d'un homme comme Dieudonné ou d'autres, que ces hommes ne cherchent même pas à être convaincus de toute façon. Ils sont négationnistes, complotistes, et une des raisons de vivre, comme celle de Forisson, c'est de déverser cette propagande et de la faire connaître. Par contre, pour certaines personnes qui les rencontrent, virtuellement ou pas, je pense que sur certains points, on peut en tout cas essayer de les écouter. Alors après, est-ce que notre but, c'est de les convaincre? En tout cas, de leur donner des informations et de montrer que ces discours sont des discours de propagande et qui sont fallacieux. Vous savez, je vais vous donner un exemple qui n'a pas de rapport, mais quand même. Vous parliez de Serge Klarsfeld tout à l'heure. Et à un moment, Robert Forisson rencontre un homme qui s'appelle Jean-Claude Pressac. Jean-Claude Pressac était négationniste. C'était un pharmacien de banlieue. On est à ce moment-là, à la fin des années 70, qui a été, entre guillemets, convaincu par, entre autres, les arguments des historiens. Et de négationniste, il est devenu anti-négationniste. C'est un homme obscur, hein, qui avait un parcours idéologique précis. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lui, par exemple, par les documents, comme d'autres, a été convaincu. Il a travaillé après aux côtés de Serge Klarsfeld. Il est très controversé, mais on peut être convaincu si on ne part pas comme eux de ce postulat. Soit on part d'un postulat, cette méthode ascientifique qu'ils ont. Là, en l'occurrence, les chambres à gaz n'ont jamais servi à gazer des hommes, les juifs n'ont jamais été exterminés. Soit on laisse parler des documents et des propos, et à ce moment-là, pourquoi pas.
Comment résoudre ce paradoxe, pour conclure Valérie Gounet, qui fait que toutes les condamnations en justice de Robert Forisson n'ont fait à chaque fois que renforcer sa légitimité pour l'univers négationniste et complotiste?
Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ils ont un discours qui colle aussi à cette réalité, c'est-à-dire nous sommes des victimes d'un complot, évidemment, nous sommes victimes d'un complot judiciaire, citoyen, politique, etc. Donc, en fait, cette mise au banc qu'ils utilisent et avec laquelle ils s'ostracisent, ça fait partie de ça. Ils sont comme ça, les négationnistes, comme les complotistes, d'ailleurs.
Merci beaucoup Valérie Gounet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historienne, directrice adjointe de Conspiracy Watch et autrice d'une histoire du négationnisme qui est publiée au Seuil.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.